Bon matin à vous tous. Je suis vraiment content de vous retrouver. Je vous visite normalement une fois par année. L'année passée, j'ai passé mon tour. Alors, pour ceux qui trouvent ça pénible de m'entendre, vous avez eu un break. Alors, ce matin, je vous demande d'être indulgent. C'est vraiment avec joie que je suis avec vous ce matin, pour plusieurs raisons. Non seulement pour cette communion avec vous, aussi pour avoir l'occasion de vous rencontrer, mais aussi pour vous présenter quelques nouvelles concernant ce ministère télévisé de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Et j'aimerais aussi partager la parole de Dieu avec vous. Et vous savez, cette année 2014, ça va être une année vraiment spéciale pour l'Heure de la Bonne Nouvelle. Non seulement c'est la suite du 50e, mais il y a eu un changement qui a été fait au niveau de la production des émissions. Et c'est un peu relié au nouveau diffuseur que nous avons à l'Heure de la Bonne Nouvelle, puisque dès le 26 janvier, nous serons sur les ondes de VTL. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de changement d'horaire. OK? Il y a aussi plusieurs changements, puisque Valérie n'a pas pu faire les émissions avec nous en raison de sa santé. Et cette année, on a décidé de changer un peu la formule, étant donné qu'il y avait ça aussi comme chamboulement. Et aussi, on a Jeff Lorrain avec nous, avec Jean-Pierre Cloutier et François Fréchette. Et je vais vous présenter une vidéo de 1 minute 53. Et vous allez voir, c'est un petit peu différent de ce que vous êtes habitué d'entendre. Et normalement, dans les débuts d'émission, les 30 premières secondes, ça va être normalement des images qui vont être assez choc. Et je vous avise tout de suite, la première émission, on sert même un avertissement au début. C'est qu'on veut vraiment attirer l'attention des gens, puis on veut illustrer. Et vous allez voir que l'illustration qu'on a choisie illustre vraiment bien. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on peut aller tout de suite avec la diffusion du vidéo démo.
Cette année, à l'heure de la bonne nouvelle,
nous allons aborder le problème que nous avons presque tous avec certaines lois.
Une toute nouvelle série.
On va essayer de trouver chacun des 10 commandements et de voir quel impact ça a dans nos vies aujourd'hui.
Sur les 10 commandements.
La loi, elle est là pour nous garder dans la liberté.
On a cette expression d'avoir des garde-fous. Bon, ben, je pense que les commandements, les règles, sont au fond des garde-fous.
Avec Jean-Pierre Cloutier.
On doit nécessairement arriver à la même conclusion que l'apôtre Paul lorsqu'il réalise ce texte qu'on est en train de lire dans Romains chapitre 7, qu'il aime la loi de Dieu, mais qu'à l'intérieur de lui, il y a une autre loi qui l'empêche d'observer la loi de Dieu.
François Fréchette.
La gravité du péché, c'est pas juste une loi grave, c'est une loi qui a une conséquence éternelle.
Et Jeffrey Lorrain.
La loi est donnée pour préserver ce que Dieu vient de faire. Je viens de t'affranchir. Maintenant, je te donne une loi pour pas que tu retournes dans l'esclavage.
Libéré pour vivre libre. Ne manquez pas l'heure de la bonne nouvelle les dimanches 12h30 dès le 26 janvier sur V.
Alors, comme vous voyez, c'est un style qui décoiffe un peu. Mais je pense que ça va faire la job. Et on veut vraiment trouver une façon, on a changé le format de l'émission pour vraiment aller là où les gens sont, dans leurs croyances, et faire en sorte d'apporter le message de l'Évangile, au lieu de, excusez l'expression, de domper le message de l'Évangile sans prendre conscience de là où les gens sont vraiment. Et cette année aussi, on a quelque chose de nouveau, c'était coupé dans la première émission parce que, bon, on avait un problème de temps, mais on a fait un sondage. Vous savez, normalement, à chaque émission, on va avoir ces vox pop qu'on fait, où on va chercher ce que les gens pensent dans la rue. Et on a ajouté quelque chose de nouveau, et là, j'aurais vraiment besoin de votre collaboration pour ça, c'est qu'on fait des sondages via Internet avec la plateforme Monkey Survey. Pourquoi Monkey, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça le titre de la plateforme. Et je vais envoyer un courriel, mettons, je vais choisir Stéphane. Je vais envoyer un courriel, un premier courriel qui donne les indications. Et vous allez recevoir un deuxième courriel que Stéphane va probablement vous faire parvenir. Et je vous demande de ne pas répondre au sondage. OK? Parce que les croyants, c'est à peu près 1% de la population. Puis on sait à peu près ce qu'on croit. OK? Puis on veut savoir ce que les gens pensent. Et on ne veut pas faire en sorte que ce soit juste les chrétiens qui répondent au sondage. Comprenez-vous l'idée, là? Puis on veut faire vraiment ça. Fait que moi, ce que j'ai fait pour moi personnellement, j'ai pris 25 contacts des gens, des amis, des gens de ma parenté, à qui j'ai envoyé le sondage avec un petit mot d'introduction, leur demandant de participer à ce sondage-là. Et lorsqu'on n'aura pas le temps de présenter tous les résultats du sondage à l'émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle, tous les résultats vont être présentés sur notre site Facebook. Alors, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir comparer leurs convictions avec celles des autres, mais encore mieux, de voir les émissions qui se rattachent à chacun des sujets et de voir ce que Dieu dit concernant ces sujets-là. Et ça va nous permettre, je pense, d'avoir une occasion de relancer l'annonce de l'Évangile auprès de ces personnes-là à qui on a demandé de participer au sondage. Vous allez recevoir une série de 4 sondages à intervalles. Le premier, il est déjà lancé, mais donc je vais vous envoyer le deuxième et vous allez en recevoir 3 autres là, pour ce sondage-là. Ça vous convient? J'aimerais beaucoup que vous puissiez participer parce que plus on va avoir de répondants, j'aimerais qu'on ait des centaines et des centaines de répondants pour faire en sorte que notre sondage soit vraiment représentatif des convictions des Québécois. Alors donc, le thème pour cette année à l'heure de la bonne nouvelle, libéré pour vivre libre. Et pour ce faire, on a choisi les 10 commandements. Vous savez, on a changé 3 fois de thème au début de la production de ce message-là, de cette série-là. Et c'était quelque chose d'assez assez difficile. Mais on pense que même si on a pris des passages qui sont quand même normalement pas trop populaires, on pense que ça va mettre en compte le péché et que la bonne nouvelle sera encore mieux appréciée. Et pour nous, comme croyants, j'aimerais qu'on puisse voir ce matin et peut-être mettre la table de cette série-là, libéré pour vivre libre. Et j'aimerais, pour introduire les 10 commandements, prendre ce texte dans Jean au chapitre 15, au verset 7 à 11. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Jean au chapitre 7 à 11. Et peut-être qu'on peut mettre le PowerPoint pendant le temps que vous tournez. C'est une pensée qui me préoccupe, qui m'habite depuis déjà quelques mois. Et parce que cette pensée-là m'habite, et parce qu'une des caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ, que c'est de garder les commandements de Dieu. Alors, c'est pour ça que j'aimerais vous lire ça en introduction, que mon désir pour vous et moi, pour mon Église, pour votre Église, pour les Églises de la région et de partout au Québec, je souhaite qu'on puisse être une Église de disciples de Jésus-Christ, engagée, fondée dans les Saintes Écritures, enracinée dans l'amour de Dieu, focalisé sur sa mission, pas la nôtre, mais sa mission, par la puissance du Saint-Esprit, incarnant le royaume de Dieu, ou si vous aimez mieux, incarnant le message de l'Évangile. Vous savez, ce n'est pas tout de se lever et d'aller propager cette bonne nouvelle-là, mais aussi, le but ultime, il ne faut jamais l'oublier, c'est de former des disciples. Et pour former des disciples, il faut être nous-mêmes des disciples. Y a-t-il quelque chose que je fais, il me semble que... Je donne un coup de poing sur quelque chose à toutes les fois. Ça fait-tu un... Ou c'est juste moi qui entends ça? J'entends comme un tonnerre à la fin de certaines exclamations. C'est parti. Non, OK, c'est revenu, mais c'est pas grave. OK, alors, maintenant ceci étant dit, j'aimerais lire ce texte dans Jean 15, 7 à 11, et étant donné ma faiblesse momentanée de la vue. Si tu veux... C'est moi qui ai ça, cette affaire-là. Merci. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je suis dans Jean 15, 7 à 11, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, parmi les caractéristiques pour être un véritable disciple de Jésus-Christ, parce que c'est facile de se réclamer comme étant un disciple de Jésus-Christ, mais c'est une toute autre chose que de satisfaire aux conditions qui sont attachées au fait d'être disciple de Jésus-Christ. Et dans ce texte, on voit deux des conditions de garder les commandements et de demeurer dans son amour. Et si on demeure dans son amour, certainement qu'on va garder ses commandements et qu'on va aimer son prochain, puisque les 6 des 10 commandements sont attribuables à notre prochain. Et ensuite aussi dans Marc au chapitre 8, au verset 34, il y a aussi trois autres conditions pour être son disciple. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Et concernant être un disciple, il y a un autre aspect qu'on oublie souvent. C'est qu'un véritable disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est occupé à faire des disciples. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a tellement de choses dans la vie chrétienne et dans la vie séculière qu'on trouve très, très peu de temps à faire des disciples. Et permettez-moi une citation de David Platt. Je pense que c'était à Verge 2013, il a dit « Une compréhension appropriée de ce que signifie suivre Jésus nous dirige vers une obéissance à faire des disciples. » Voilà en guise d'introduction ce matin. Donc, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ces deux conditions qui sont intimement reliées. Et j'aimerais voir avec vous ce que consiste garder ces commandements. Et j'aimerais le faire pas dans une attitude légaliste. Parce que vous savez, normalement, quand on parle de la loi de l'Éternel, qu'on parle qui est résumée dans les commandements, on a une tendance à penser que c'est quelque chose pour gâcher notre part. Et ce que j'ai compris d'une façon plus profonde à l'intérieur de cette série 2014 de l'heure de la bonne nouvelle, c'est le contexte dans lequel Dieu a donné cette loi-là et le but de cette loi-là. Le but de la loi, ce n'était pas de dire « je veux que vous soyez correct pour vous délivrer ». Dieu a délivré son peuple par grâce, puis il dit « parce que je t'ai délivré, je veux que tu restes libre et je vais te donner des indications pour rester libre dans ta vie ». Pour la plupart des Québécois, ces commandements-là, c'est un gâche party. Mais si on regarde attentivement ce que le texte nous dit concernant les 10 commandements, on réalise que ça a été donné pour notre bien. Et non pas juste pour faire plaisir à Dieu. Puis j'aimerais la première chose de dire concernant le contexte des 10 commandements. Vous savez, dans le Nouveau Testament, je pense que c'est pas les disciples, mais quelqu'un a posé la question à Jésus, il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, ça c'est le second. Le Seigneur Jésus a résumé toute la loi dans cette phrase-là. Mais si on regarde comme faut ce qu'il dit en Marc chapitre 12 et verset 30, on voit cette parole-là, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Et le verset, j'avais pris en note ici, regardez le contexte au verset 29. Je manque de place un peu. Il est dit, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » C'est la prémisse de départ avant que la loi soit donnée dans l'Ancien Testament. Et tournez avec moi, s'il vous plaît, ça vaut la peine de tourner dans Deutéronome au chapitre 6, verset 5. Je vais aller quand même assez rapidement, si je veux toucher quand même assez en détail ces commandements-là. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, même on peut aller au verset 4, le contexte encore dans lequel ce passage-là que Jésus cite, qui est tiré de l'Ancien Testament, c'est écrit au verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et le verset 33 nous dit, du chapitre 5, juste auparavant, que Dieu nous demande de suivre ses voies afin de vivre et afin d'être heureux. Et au verset 12 du chapitre 6, il est dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. Vous n'irez pas auprès d'autres dieux. » Voilà le contexte dans lequel les 10 commandements ont été donnés. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a délivré de l'esclavage. Nous, comme croyants, le Seigneur nous a pardonnés et il nous a délivrés de l'esclavage du péché et il veut qu'on puisse vivre d'une façon libre quant au péché. Le but des commandements de Dieu, c'est d'éviter qu'on retourne dans cette servitude-là qui nous rend tellement malheureux et qui nous éloigne du plan de Dieu pour nos vies. Donc, le but de Dieu c'était de libérer son peuple pour le garder libre. Et je vais lire très, très succinctement les 10 commandements et j'aimerais dire quelques mots concernant ces commandements-là et surtout le but, encore une fois, que Dieu poursuit. Verset 3 de Exode chapitre 20, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ça on a moins de trouble un peu, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. Il y en a qui ont le plus de misère, mais celle-là, c'est moins pire. Donc, les 10 commandements, c'est bien plus qu'une question de moralité. C'est une question de liberté. C'est une question d'avoir cette liberté de vivre pour célébrer la gloire de Dieu. Pas une liberté pour faire n'importe quoi sous le couvert de la grâce, mais une pleine liberté pour vivre en communion avec Dieu et de contribuer à célébrer sa gloire. Ça prend plus de place. Pour encore une fois bien comprendre la perspective dans laquelle la loi est donnée dans le Nouveau Testament, je vous invite à tourner une dernière fois dans un texte. Après ça, je vais vous donner congé. On va aller avec les acétates. Les acétates, oui. Hein? Le PowerPoint. Mon surnom, c'est Fred Caillou Bourassa. Alors, Romains chapitre 7, verset 8, vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment... Ça, je ne veux pas manquer mon coup. Si je manque mon coup là, je manque l'essentiel du message. Alors, on va lire ça, puis je vous demande d'être attentif, et je vais essayer de ne pas être effrayant, mais essayer de vous expliquer ça comme il faut. Romains chapitre 7, verset 25. Il est dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. » Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset 1er, chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Si on regarde comme il faut, il y a trois lois dans ce texte-là. La première loi, la loi de Dieu, qui est bien traduite dans les 10 commandements. Ensuite, on a la loi du péché, qui fait en sorte qu'on ne fait pas ce qu'on voudrait, mais on fait ce qu'on ne veut pas faire. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, nous dit la parole de Dieu. Et on est en quelque sorte comme prisonnier de cette loi-là du péché. Mais il y a une troisième loi qui intervient, qui fait en sorte qu'on est délivré de cette loi du péché. C'est la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus. Et pour illustrer ça, on peut prendre le domaine physique. Dans le domaine physique, il y a des lois, dont une des lois qui est la loi de la gravité, n'est-ce pas? Si je saute en bas ici, en principe, je devrais retomber en bas. C'est assez dur pour nous de voler. On ne vole pas trop longtemps. Cette loi de gravité-là, elle est là. Mais pour que cette loi-là soit supplantée, il faut qu'il y ait une autre loi qui intervienne. Exemple, si vous allez en avion, vous allez vaincre la loi de la gravité. Pourquoi? Vous êtes à 30 000 pieds, vous volez. Mais il y a une autre loi qui intervient, qui est la loi de l'aérodynamisme, qui fait en sorte que, bon, avec les pannes, puis les hélices, ou les réacteurs, puis les ailes, puis toute la carlingue, en tout cas, tout le stock qu'il y a dedans, ça vole. Donc, la loi de la gravité est en quelque sorte suspendue, mais pas complètement. Si tu te tosses à côté de ton siège, tu vas te retrouver à terre, là où le bas du dos perd son nom. Parce que la loi de la gravité, elle continue à s'accomplir quelque peu. Je pense que c'est une belle illustration pour nous, comme croyants. Pour vaincre la loi du péché, pour vaincre cette loi de la gravité du péché, si je peux prendre cette expression-là, il y a la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus, qui nous donne cette nouvelle nature-là, qui fait en sorte qu'on est capable de vivre et de ne plus être esclave du péché et de vivre dans la sainteté, dans le programme original pour vous et pour moi. N'est-ce pas? Et la beauté de l'Évangile, ce qu'on va tenter de faire ressortir à travers les émissions, après avoir mis la table concernant certaines problématiques reliées au cœur humain, on va présenter toute la beauté de l'Évangile qui fait en sorte que lorsque Jésus est venu sur la croix, il nous a non seulement délivrés de l'esclavage du péché, mais il nous a aussi délivrés du châtiment que méritaient nos péchés. Et on va pouvoir voir tout, d'une façon toute spéciale, la beauté, la grandeur de ce merveilleux évangile qui est en Jésus-Christ seul. On a une opportunité d'être à la télévision et peut-être qu'elle n'est pas là pour très longtemps. Et Dieu voulant, cette année, on va la prendre. Et j'ai oublié aussi de vous dire qu'on va être aussi sur les ondes de Télémag 3 fois par semaine, dimanche à 1h30, c'est dans la région de Québec, Saguenay, La Beauce et le Bas-Saint-Laurent, et bientôt aussi dans d'autres régions au Québec. Alors, si vous avez des amis par là, vous pouvez aussi leur donner les signets, puisqu'on est sur les ondes de Télémag. Ceci étant dit, voici donc le contexte dans lequel la loi doit être vue dans le Nouveau Testament. Et dans Romains, chapitre 7, verset 6, on est tout proche. « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, parce que nous sommes identifiés à la mort de Jésus-Christ, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. » Et là, je vais aller en rafale parce que j'ai 15 minutes et attachez vos ceintures, on va couvrir les 10 commandements. Le premier commandement, qui est bien important, tous les autres aspects découlent de ce premier commandement-là, qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Tout de suite, lorsque Dieu a délivré son peuple d'Égypte, il ne voulait plus qu'il y ait d'autre Dieu pour eux. Et dans le temps que Dieu donnait la loi à Moïse, il avait déjà commencé à se faire d'autres dieux. Le cœur humain est assez rapide à changer de channel, si on peut dire, si on peut prendre ça comme illustration. Donc, un seul Dieu qui réclame l'exclusivité. C'est le plus important de tous les commandements. Un seul Dieu qui est au centre de notre vie. Pas Dieu plus nous, pas nous plus Dieu, Dieu seul. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre qu'ils ont donné à Sola pour la jeunesse. C'est une équation mathématique qui dit « Jésus plus rien égale tout ». Au début, tu sais, bon, t'as pas trop convaincu. Très, très bon. Parce que ça met en perspective le fait que Dieu seul doit être au centre de nos vies. Et parce que Dieu est au centre de notre vie, ça devient notre raison de vivre, notre plus grande joie. Quelqu'un a déjà dit, Mark Driscoll a dit, « La vraie liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais plutôt la liberté de faire ce pourquoi nous avons été créés, pour célébrer sa gloire, pour vivre la volonté de Dieu selon son plan et pour l'éternité. » S'il n'y a pas d'autre Dieu dans notre vie, on va pouvoir vivre le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors, qui est votre Dieu? Nous avons été libérés pour marcher en lui, et si nous marchons en lui, nous sommes libres. Deuxième commandement. Oh, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, OK. J'avais oublié, j'avais une crampe au cerveau. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et là, tout le reste. L'idée, le Seigneur donne cet avertissement-là, cette directive-là, parce qu'il connaît le cœur humain qui a une tendance malveillante à se fabriquer des idoles, à trouver un autre Dieu ou à être son propre Dieu. Nous avons été créés pour adorer. Et si on n'adore pas Dieu, on adore quelqu'un d'autre inévitablement. Il n'y a pas de vide juridique. L'idolâtrie, c'est d'adorer n'importe qui ou n'importe quoi sauf Dieu. C'est tout ce qui prend la place de Dieu, bonne ou mauvaise, qui devient notre but ultime au lieu que ce soit Dieu. C'est tout ce qui vient usurper la place en nous qui est réservée à Dieu. Et si vous pensez que vous n'êtes pas idolâtre, je vous invite à lire le livre de Tim Keller, « Les idoles du cœur », et vous allez voir que c'est assez facile pour nous de se faire des idoles. Et ce qui est vraiment pernicieux là-dedans, ce qui est vraiment, vraiment difficile, c'est que les idoles sont, pour la plupart, au départ, des choses qui sont bonnes. Mais ces choses-là qui sont bonnes deviennent hors proportion, qui font en sorte que ça prend la place de Dieu, et ces choses-là deviennent mauvaises. Et vous et moi, on a cette tendance naturelle à se créer des idoles. C'est facile pour nous de voir chez les autres les idoles, mais c'est beaucoup plus difficile pour voir dans nos propres cœurs. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il est question d'abandonner nos idoles et de se tourner vers Dieu et de le servir. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Et là, on a les autres directives que le Seigneur donne à son peuple. L'opposé du christianisme, quelqu'un a dit, je trouve ça vraiment bien, l'opposé du christianisme n'est pas l'athéisme, mais l'idolâtrie. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et je pense que prendre le nom de Dieu en vain, c'est beaucoup plus que le blasphème. Parce que le nom de Dieu, c'est précieux et ça définit ce qui le caractérise. Et le plus grand blasphème que je vois parmi les Québécois, c'est quand les Québécois parlent du petit Jésus dans la crèche, qu'ils peuvent malmener, qu'ils peuvent lui dire n'importe quoi, puis pour eux, c'est pas grave. Ou l'autre blasphème le plus commun des Québécois, le bon Dieu. Là, vous allez me dire, bien là, Guy, voyons donc, Dieu est bon. Permettez-moi de vous dire la chose suivante. Juste un bon Dieu, ça n'existe pas. Un bon Dieu juste, ça existe. Comprenez-vous la nuance entre les deux? Juste un bon Dieu, ça n'existe pas. Mais un bon Dieu juste, ça, ça existe. Les gens veulent prendre le côté Père Noël de Dieu, mais ils ne veulent rien savoir de la justice de Dieu. Et ce qui est merveilleux dans le message de l'Évangile, c'est que Dieu a pu garder sa justice, elle a pu être accomplie parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Dieu a continué d'être bon tout en étant juste. Et si Dieu est au centre de notre vie, ça va être un Dieu qui est bon, mais qui est aussi juste. On ne peut pas séparer les deux de Dieu. C'est indissociable. Quatrième commandement, j'ai eu beaucoup de misère avec ça quand j'ai prêché là-dessus à Shawinigan. J'ai manqué beaucoup de crédibilité. Mais, j'ai quelque chose pour vous. Je suis en train de confondre les sceptiques. De prendre une journée à part. Dieu demande à son peuple, vous allez prendre une journée à part, vous allez faire tout votre travail en 6 jours, le 7e jour, vous allez vous reposer. Mais moi, j'avais trouvé un moyen pour dire, écoute, là, non, j'en ai pas assez de 6, il faut que j'en prenne 7, puis là, je débordais à l'ennui, puis il en manquait tout le temps. Puis je demandais à Dieu de me donner du temps. Il dit, écoute, t'es pas capable d'en administrer 24, oublie ça pour 25. Mais l'idée, j'ai réalisé que, autant que l'incrédulité du peuple d'Israël a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans le repos, cette même incrédulité dans ma vie m'empêchait d'entrer dans le repos de Dieu. Parce que je pensais que ça ne pouvait pas y arriver à 6 jours, que ça n'en prenait 7. J'ai manqué de foi envers Dieu. Et depuis 5 semaines, je veux glorifier le Seigneur, je suis en thérapie, j'ai la victoire. C'est fragile, je vous dirais, c'est très, très fragile. Mais j'ai réalisé comment, encore une fois, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce sont des choses qui sont bonnes, justes et parfaites pour nous, pour vivre au diapason de Dieu, et non pas dans un autre diapason que j'appelle la folie meurtrière de l'activisme. C'est proche de ça pas mal. Quelqu'un dit... Nous glorifions plus Dieu dans le repos que dans le travail. J'ai de la misère à comprendre ça en bébé. Aïe, aïe, aïe. Donc, le but de Dieu est de nous faire entrer dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, de réaliser ce qu'il a fait, mais de réaliser aussi tout ce que Dieu accomplit dans nos vies, de prendre une pause pour réaliser ce que Dieu est en train de faire et peut-être ce qu'on est en train de faire qui n'est pas correct et qu'on devrait rectifier le tir. J'espère être guéri, mais je connais la nature du cœur humain, chasser le naturel au galop et le reviendra assez rapidement. Mais c'est spécial qu'on voit dans l'Ancien Testament. Je sais pas ce que j'ai dit là, mais je n'étais pas là, fait que coupez ça dans le montage. J'ai une bulle qui a monté. Mais ce que j'essaie de vous dire, là, si c'est pas dit ça, c'est chasser le naturel et il reviendra au galop. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas ça que j'ai dit? OK, alors, je viens juste de faire la rectification, hein, je ne vais pas vous m'en tenir tranquille. Hey, c'était vraiment tough, ce commandement-là. Comme je l'ai dit, convoiter l'âne puis le bœuf du voisin, c'est pas pire, mais ça, c'est plus tough. Le cinquième commandement, parce que là, il me reste quand même 5 minutes, puis là, on va faire comme à l'Assemblée nationale avec la guillotine. Hey, c'était spécial, hein, quand même. Vous regardez le repos, 7 fois 7 ans, la 49e année, il se passait vraiment de quoi. Puis aussi le jubilé, 49 ans, la 50e année, toutes tes dettes, tes hypothèques, tout est payé. Je pense qu'on n'a pas le bon système économique au Québec. On devrait changer pour celui biblique. Le cinquième commandement, et là, tous les autres commandements, tous concernent, les premiers concernent notre relation avec Dieu, et les autres concernent notre relation avec notre prochain. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et permettez-moi juste de souligner très, très rapidement le fait que honorer, c'est de donner de la valeur à quelqu'un. Et certainement que les enfants devraient donner de la valeur à leurs parents. Et certainement que les parents devraient exercer l'autorité parentale sans irriter les enfants. Et en honorant leurs enfants, en donnant une valeur précieuse à leurs enfants, même s'ils sont différents des plans qu'ils avaient entrevus pour eux. OK, on va continuer avant que ça se gâte, avant que je dise d'autres choses. Tu ne tueras point. Bon, normalement, c'est quand même pas si pire, cette affaire-là. Y en a-tu beaucoup qui ont tué quelqu'un ce matin? Non, OK. Si vous avez tué, si vous levez la main, on va être obligé d'appeler la police. Mais l'idée, c'est que Dieu est en train de dire, je veux pas que tu tues parce que la vie est précieuse et que là, tu vas tuer, tu vas détruire une créature qui était faite à mon image. Et dans notre société, de plus en plus, la valeur de la vie est malmenée. C'est pour ça qu'on a eu tant de problèmes avec l'avortement, l'euthanasie et plein d'autres choses. Puis là, je ne veux pas porter de jugement, mais juste dire qu'il me semble que de plus en plus, la vie est moins précieuse qu'elle était auparavant. Et vous savez, quand on décide de tuer quelqu'un, c'est qu'on décide d'entrer dans notre propre système de justice au lieu du système de justice de Dieu. Et vous regarderez dans tous les autres péchés qui peuvent être commis suite à ces commandements-là qui sont donnés, prenez toutes les autres, et il est toujours question de justice propre, question d'orgueil, question d'égoïsme. C'est une dénomination commune. Puis même quand Dieu n'est pas à la première place dans notre vie, c'est notre orgueil nous coule, puis nous éloigne de Dieu. Parce que bien souvent, on veut devenir notre propre Dieu. On se fait notre petite religion en carte, puis on n'a pas de compte à rendre à personne. On est autonome. Tu ne tueras. Puis regardez comme illustration, je n'ai pas le temps de le faire, mais Caïn et Abel, Caïn a décidé de prendre son propre système de justice. Et c'est là qu'il a décidé de tuer son frère. Tu ne commettras pas d'adultère. Encore là, il est question de justice propre. Il y a un slogan qui a été dit, puis là, je veux que ça soit bien compris, là, mais tu sais, c'est un peu ça la mentalité qu'il y a derrière l'adultère. La justice propre, puis ça se dit un peu comme le slogan de Nautilus Plus, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est à peu près ça. Je sais que c'est cru, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est encore une fois un système de justice propre, c'est question d'orgueil, je mérite cette personne-là, c'est question d'égoïsme. C'est tout le temps un dénominateur commun. Et le Seigneur nous met en garde que l'adultère, ça commence dans le cœur. Huitième commandement, oui, tu ne déroberas point. Encore là, un système de justice propre. J'ai décidé que cela allait m'appartenir. Et là, j'aurais pu faire une thérapie. Je me suis fait voler 3 vitesses quand j'étais petit. Le premier va coûter 101 piastres, 101 piastres, un targot. J'avais travaillé 101 heures. Du samedi au jeudi, puis même mon père me traitait de lâche le jeudi soir parce que je voulais aller me promener avec mon bicycle. Mais la semaine d'après, il m'a fait voler. Puis ça, là, ça m'a rendu vraiment rebelle envers tous ceux qui volent. Puis j'ai décidé que dans ma vie, j'allais pas voler. Ça fait trop de mal aux autres. Alors, je fais ma petite tempête éditorialiste, il me reste une minute. Mais c'est vrai que c'est vraiment fauchant. Tu voles quelque chose qui t'appartient pas, que l'autre a travaillé pour. C'est vraiment pas gentil. Dixième. Tu ne te fâcheras pas, ça doit être l'onzième, ça. Encore là aussi, l'autre a fait qu'il m'horripile sous le soleil. Non seulement le vol, mais la calomnie. Tu dis quelque chose de faux pour malmener l'autre. Puis même ça, je vois ça parmi les chrétiens, c'est horrible. Je parlais à quelqu'un dernièrement, j'ai dit, si tu veux, t'as fait, c'est qui a sorti ça, cette affaire-là? Je comprends pas pourquoi dans notre cerveau, on peut pondre une menterie comme chrétien. Puis après ça, tu mets la personne, où t'as pris ça, cette information-là? Ben, j'ai pensé dans ma tête que, exemple, t'as volé d'un dépanneur. Mais tu m'as-tu vu sortir d'un dépanneur? Non, non, mais j'ai pensé dans ma tête que t'as volé d'un dépanneur. Hé, ça devient troublé, ça, hein? Tout ce qui se passe dans votre tête, là, tu sais, ouh. Moi, je dis, ouh, attends un peu, on va ralentir un peu l'activité cérébrale parce que là, on a un problème. Faut faire attention à ça, puis parmi le peuple de Dieu, faut être en garde contre ça. Encore une fois, c'est une question d'orgueil, de convoitise et d'égoïsme. Et là, tu ne convoiteras point, ça va avec tout le reste. Je n'ai pas besoin d'aller plus en détail là-dessus, mais tout ce qui ne t'appartient pas. Quand tu envies les autres, tu veux ce que les autres ont. Comme croyant, on devrait être rempli du véritable contentement qui est en Jésus-Christ. Puis s'il nous donne d'être riches, d'être pauvres, comme Job a dit, Dieu donne, puis Dieu reprend, que Dieu soit béni. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, Père Céleste, ce matin, on a voulu voir rapidement ces commandements, mais tu veux nous parler à travers ces commandements-là. Donne-nous, Seigneur, de comprendre le véritable sens dans lequel tu as donné ces commandements pour nous garder libres. Seigneur, on a besoin de ça et donne-nous de s'examiner chacun dans nos cœurs pour voir si on est véritablement tes disciples. Parce que ta parole nous dit que si on garde tes commandements, nous sommes véritablement tes disciples. Alors Seigneur, notre vœu, notre prière, c'est que tu changes nos vies, c'est que tu changes nos cœurs pour qu'on puisse être de véritables disciples de Jésus-Christ, qu'on puisse l'honorer et qu'on puisse vivre, Seigneur Dieu, selon ton plan, jusqu'à temps que ton bien-aimé Fils revienne pour nous prendre avec lui, pour nous amener au ciel. Seigneur, donne-nous d'être des lumières, mais plus que des lumières qui vont rayonner l'Évangile en 2014, mais des disciples engagés qui vont former d'autres disciples. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu, pour ta plus grande gloire. Amen. Merci beaucoup.